de la sortie d'Égypte comme constitution de l'expérience fondamentale d'Israël comme collectivité. D'autre part, la comparaison avec Abraham, telle que nous l'avons vue. Et, mais, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la même expérience, l'une à l'échelle individuelle, donc Abraham sera le point de départ d'une identité humaine qui, une fois qu'elle sera constituée en nation, aura à vivre dans l'histoire, expérimentalement, cette expérience de la galoute qui est, au niveau de la vie humaine, dans la société, ce qu'est le conditionnement, la détermination naturelle au niveau des rôles de la nature. On va essayer de s'habituer d'abord à ce principe. Qu'est-ce que c'est être asservi, privé de liberté par rapport à la volonté de quelqu'un d'autre? Être, enfin, peu importe le vocabulaire, dans les nuances, mais c'est l'idée essentielle. Être évêque de quelqu'un, être esclave de quelqu'un. C'est-à-dire avoir sa liberté conditionnée, déterminée par la volonté de quelqu'un d'autre. C'est au niveau de la vie humaine, au niveau du fait social, du fait humain, le fait de la vie naturelle, c'est-à-dire être conditionné par une détermination qui s'impose à moi et qui met plus que des limites à ma liberté, qui la supprime. L'être de nature n'est pas libre, il est entièrement déterminé par les lois de nature. C'est-à-dire la pierre, la table, à la limite, la plante, l'animal. Il y a une détermination, ce sont des mécanismes tout montés qui fonctionnent. Il y a une espèce de, comment vous dire, de prise au piège de ce que serait la liberté de la vie dans le conditionnement des lois. Au niveau de la société humaine, c'est... au niveau de la société humaine, de la vie humaine, du comportement de l'homme, qui par principe est une créature d'une toute autre nature que l'être naturel, qui par principe, et prendre sa propre postulat, se définit comme étant libre, le fait d'être soumis à la volonté de quelqu'un d'autre, c'est de nouveau l'irruption, si vous voulez, de la détermination naturelle dans le fait humain. Est-ce que c'est clair? Et donc, ça nous explique l'importance de l'événement de Géoula, de l'événement de délivrance. C'est-à-dire, la descendance d'Abraham va vivre ce conditionnement comme première étape d'une deuxième expérience, comme le deuxième moment, c'est l'expérience de la libération du conditionnement. Et en particulier, on voit dans ce qu'a été la civilisation mésopotamienne, d'où est sorti Abraham, dans ce qu'a été la civilisation de l'Égypte, d'où est sorti le peuple hébreu sous la direction de Moïse, le système social reflète la conception du monde naturel dans les principes qui régissent la relation de l'homme à l'homme, c'est-à-dire la maison des esclaves, Beit HaAvadim, c'est une société humaine où la loi de nature de la détermination prend le pas sur ce qui devrait être le principe de la liberté dans les relations d'autrui à autrui. Et nous aurons à étudier dans la structure de la fête de Pessah, qui a fait allusion ce matin un peu rapidement, mais je crois que vous avez étudié ça déjà, le fait que le premier soir de Pessah, le premier jour de Pessah, commémore la sortie des Juifs. Le septième jour de Pessah commémore le passage de la mer Rouge. Et il y a là cette même expérience de la Géoula à deux niveaux. Le premier niveau, le premier jour, la sortie d'Égypte, à proprement parler, Yetziat Mitzrayim, c'est l'expérience qu'on peut être délivré de l'aliénation à la volonté de quelqu'un d'autre. Les Hébreux étaient déterminés par la volonté des Égyptiens, esclaves des Égyptiennes, de cela ils ont été délivrés la sortie d'Égypte. Et puis, au passage de la mer Rouge, donc le septième jour de Pessah, il y a une expérience d'une toute autre nature, mais qui a la même signification profonde, savoir qu'on peut être délivré des conditionnements naturels eux-mêmes. Quelle était la situation au passage de la mer Rouge, lorsque le pharaon s'est ravisé et a voulu, nous étudierons pourquoi, a voulu reprendre Israël qui était délivré d'Égypte dans son esclavage. Alors, le septième jour, la situation que nous décrit le récit de la Torah est que devant il y a la mer, derrière il y a l'armée égyptienne, on est pris au piège. Et arrive ce qu'on va appeler en français un miracle, l'expérience que l'on peut être délivré des limitations de la liberté que donnent les conditionnements naturels. C'est-à-dire, nous avons étudié ce problème pour lui-même. Pourquoi il était nécessaire de passer par ces deux expériences? Mais vous voyez que c'est fondamentalement la même expérience. Israël sort d'Égypte avec, en deux étapes, l'expérience que la Géoula est possible. Alors, il peut être le peuple à qui la Torah sera donnée. Voilà donc, grosso modo, ce que nous avons vu ce matin dans cette comparaison. Vous comprenez pourquoi dans la Gemara qu'on a étudiée, tout de suite, l'ordonnance de la Gemara nous rappelle tout de suite le changement de nom d'Abraham, dans le même contexte. Le fait qu'Abraham devienne Abraham, c'est sa sortie d'Égypte, c'est son expérience de Géoula. Vous rappelez de ça, dans le changement de nom. Bien. Alors je vous rappelle brièvement, pourquoi on ne commémore pas par une fête de type de Pessah l'expérience individuelle d'Abraham? Vous avez donné la réponse ce matin. Ce n'est pas du tout le propre de la tradition biblique d'avoir un culte des héros à l'échelle personnelle. Nous avons d'ailleurs retrouvé cela. Ça c'est déjà, quelle que soit toute la reconnaissance, le respect, etc., que nous devons à Abraham, eh bien, il n'y a pas à ériger un culte de la personnalité d'Abraham. Vous faire sentir en quoi la tradition hébraïque est radicalement différente de ce point de vue-là de tout ce qu'ont été les paganistes. Cette histoire se serait passée dans une société goy, par définition elle ne se passe pas dans une société goy, mais enfin par analogie, si vous voulez, nous aurions une religion fondée sur le culte d'Abraham, sur le culte de Moïse. On aurait érigé en expérience divine, ou semi-divine, divine, ce qu'a été Abraham, ce qu'a été Moïse, on aurait cru à cela, et par communion avec cette croyance, alors on aurait constitué un culte. Alors qu'il s'agit de tout à fait autre chose. Nous sommes cette identité-là. Est-ce que vous avez bien compris la différence? Qu'est-ce que vous voulez demander? Ça s'est annulé, on en route. Alors, je voulais à ce sujet lire quelques pages d'un article d'un de mes maîtres, d'un de mes maîtres principaux d'ailleurs, Jacob Gordin, qui est mort il y a 40 ans, et qui parle de cela à propos d'un autre sujet. Donc cet article, je vais demander à Claire de vous faire néotyper. Ouais, c'est ça qu'on dit, oui. Pas néotyper. Et puis, ça, vous l'aurez, ça se rattache un peu à ce que nous avons étudié, en fait, étudié d'autre part dans le cours du jeudi, sur la confrontation entre la philosophie et la tradition. Nous sommes déjà arrivés sur le problème de la liberté, je crois. Et vous voyez à quel point c'est relié. Et l'article s'intitule « Les crises religieuses dans la pensée juive ». C'est un article qu'il a écrit il y a assez longtemps, qui est apparu dans la revue des chefs éclaireurs, qui s'appelait « Lumière », si ça vous dit quelque chose encore, pendant la guerre. Et alors, je vous lis le début qui touche à ce thème. Lui ne parlait pas français, c'est une de ses secrétaires qui a rédigé ça en français, c'est un juif russe, comme par hasard, et qui pensait et qui parlait à la fois 7 ou 8 langues mélangées. Et ça a été rédigé sur ces notes. Je ne pense pas qu'on ait des expressions françaises que je serais amené peut-être à critiquer, c'est pas grave, c'est la secrétaire qui a fait. Mais le fond de l'idée est un autre. Je vais vous lire deux ou trois pages de cela. Dès qu'un juif veut prendre conscience de lui-même en tant qu'individu et en tant qu'élément du peuple juif, il se heurte au problème de Dieu. Vous voyez que déjà en 2 phrases et demie, à quel point c'est condensé. Dès qu'un juif peut prendre conscience de lui-même, c'est-à-dire s'identifier comme un individu, un homme, lui, ce que chacun est en tant qu'homme, et en même temps, en tant que membre du peuple juif, il se heurte au problème de Dieu. Cela est inévitable, puisque c'est de la Bible, qui est la parole divine elle-même, que l'homme juif tire les premiers éléments de la connaissance de soi et du sens de l'existence du peuple juif. En d'autres termes, notre mémoire est individuelle et comme individu dans la collectivité, donc collective, est consignée dans une carte d'identité que nous avons. C'est un cas particulier de l'histoire des hommes. La Bible, c'est notre carte d'identité. C'est clair. Alors, c'est inévitablement, dès qu'un juif se pose la question, qui suis-je, comme individu et comme faisant partie d'un certain peuple qui est le peuple juif, il se heurtera au problème de Dieu, non pas à la manière des philosophes, est-ce qu'un Dieu existe, est-ce qu'un Dieu n'existe pas, mais par le fait que sa carte d'identité est signée de l'état civil dans c'est clair. Je ne sais pas si vous avez cité cela, c'est d'ailleurs de mon maître, cette phrase-là. La Bible est le seul livre qu'aucun homme n'a pu écrire. J'ai expliqué. Pourquoi ? Quelle est la réponse ? Parce que vous savez, dans la Veda Pessah, il y a quatre enfants. Il y a celui qui ne s'est pas posé de question. Alors vous savez retenir les questions, mais pas les réponses. Quelle est la réponse ? Quand est-ce que vous existez ? C'est pas vous. Voilà. Ça vous dit quelque chose ? Voilà. Vous avez une mémoire d'ange, mais les anges n'ont pas de mémoire. Personne ne se rappelle à la fin. Tout simplement parce que le héros du livre, c'est le lecteur. C'est clair. C'est-à-dire que, ben je vous le dis un peu à ma manière, mais c'est le seul livre qui est dans ce cas. C'est de moi qu'il s'agit dans ce livre, moi qui lis. Vous comprenez ce que je dis ? Et dans tous les autres livres écrits par les hommes, ce n'est que par allusion qu'on fait allusion à un homme qui n'est de nulle part et de n'importe où, et qui n'est pas censé du tout être forcément, si c'est un roman, c'est imaginaire, si c'est un traité de philosophie, c'est l'homme abstrait, de nulle part, qui n'est pas moi vraiment, réellement. Pourquoi la Bible a secoué l'histoire de la culture humaine en général ? C'est parce que c'est le seul livre où c'est le lecteur qui est le héros du livre. Et c'est vrai pour tous les hommes, mais c'est vrai surtout pour Israël. Parce qu'à un certain moment, le personnage quitte le texte et c'est moi. C'est moi, un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Mais il le disait d'une autre manière encore. Il disait, il aimait beaucoup les romans policiers, il a d'ailleurs contaminé tous ses élèves, et il nous disait ça, la Bible c'est le seul roman policier qu'aucun homme n'a pu écrire. Essayez de comprendre pourquoi. C'est très profond d'ailleurs. Je vous l'ai dit. Tu l'as entendu ? Oui, elle c'est pas un ange, là, la mémoire. Parce que dans un roman policier, il y a un accusé. Et dans la Bible, l'accusé, c'est le lecteur. Un roman policier étrange. C'est ça qui est entendu.
C'est pas la même.
C'était quoi ?
C'était
aussi des.
Moi ?
De qui t'as entendu ça, pas de moi. Et qui c'est l'assassin ? Moi ?
Voilà.
Qu'entendez-vous là ? Non, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est comme ça. Les seuls livres qui arrivaient à le délasser, le temps, c'était les romans policiers. Parce que c'est le même problème que la Bible. Mais, comment dire, on n'est pas engagé. On dit ça à une petite historiette, mais qui a le même problème. Il y a un accusé dans l'histoire humaine. On cherche l'accusé. Mais dans le cas de la lecture de la Bible par un juif, l'accusé, c'est le lecteur. Et vous savez très bien que les juifs sont accusés dans l'histoire humaine. Accusés de quoi ? On ne sait pas. Ça y est, c'est clair ? C'est ce qu'on appelle une accusé.
Bien sûr.
Je reviens. Bon, voilà pourquoi je dis que inévitablement, le juif se heurte au problème de Dieu, mais d'une certaine manière, parce qu'inévitablement, il est mis en question dans la vésicule. C'est clair? Bon. L'histoire du peuple juif commence à Abraham. L'histoire du peuple juif, c'est l'histoire à partir de Jacob, mais commence à Abraham. Encore, à cette époque, ne s'agit-il que de l'histoire d'une famille. Abraham a entendu la parole divine, l'appel divin, ça en fait, c'est du français, après avoir passé par ce qu'on appelle aujourd'hui une crise religieuse. Le Midrash raconte qu'il s'est rendu compte de l'insuffisance des divinités païennes et qu'il est arrivé à la conception d'un Dieu, maître suprême des divinités des différents peuples et de toutes les forces de la nature. C'est clair. C'est-à-dire, l'expérience de la foi d'Abraham, c'est que au-dessus des conditionnements historiques, politiques, sociaux, naturels, physiques, etc., il y a la volonté d'un Dieu créateur. Il est devenu ainsi capable d'entendre la parole divine. Ayant reçu cet appel, enlevé appel, il est investi d'une mission qui nécessite une rupture presque absolue avec le passé. Va-t'en, quitte ton pays, ton peuple, pour rappeler le début de l'histoire d'Abraham. Le Midrash ajoute qu'il a été dit en même temps à Abraham, quitte tes conceptions astrologiques, c'est-à-dire sors de ton horoscope, décroche de ton conditionnement. Cela signifie la conception païenne, selon laquelle aujourd'hui encore, on pense encore comme ça, l'univers est dominé par les forces de la nature. C'est à la limite, comme on a vu dans l'analyse, dans la confrontation avec la philosophie, le matérialisme contemporain, c'est une laïcisation de la conception déterministe de la conception astrologique. Ok. Si les païens pouvaient accéder à l'idée du Dieu suprême, comme ce fut le cas du prêtre païen Melchisedec, il s'agit toujours du Dieu de la nature. Par exemple, pendant la Révolution française, il y a eu un culte qui était le culte de la déesse raison de l'être suprême. Okay. Mais ça fait encore partie du naturisme. C'est-à-dire qu'il y a des dieux, les forces de la nature, et il y a une hiérarchie, et puis il y a un Dieu suprême qui est le principe suprême du conditionnement naturel. Donc, même lorsque l'humanité arrive à se hausser à l'idée d'un monothéisme d'un Dieu suprême, ça reste encore dans la mentalité païenne. Est-ce que c'est clair? Bon. Couper les liens avec le passé, regarder vers l'avenir, cela veut dire quitter le Dieu de la nature. Inaugurer ce que l'on appelle depuis l'époque d'Abraham la véritable conception de l'histoire et du devenir de l'homme. Tant que les hommes regardent derrière eux, par exemple, représentation gréco-romaine de l'âge d'or, ici il fait allusion à un thème auquel on a peut-être touché, que pour les goïms, l'âge d'or est au passé, alors que pour Israël, le monde à venir, c'est au futur. Ils vivent sous l'emprise du passé, de la nature. La nature, c'est ce qui est déjà devenu. Mais ce qui est déjà devenu est condensé, figé, englué. Et ça fonctionne comme un mécanisme. Alors que la foi d'Abraham, c'est qu'il y a une fécondité d'avenir possible. C'est clair? Pour avoir le sentiment de l'histoire, il faut vivre vers le futur. C'est cette idée-là qu'expriment les mots « quitte tes conceptions astrologiques ». Ça veut dire « dirige-toi vers le futur, décroche du passé pour te diriger vers le futur ». C'est à Abraham qu'est révélé que l'homme et l'histoire humaine ne sont pas régis par le mouvement régulier des astres, mais que la volonté des hommes, soutenue par la providence divine, dirige les destinées humaines. Bon, le style est français, un peu vieillot d'ailleurs, mais ce n'était pas le style de M. Gordin, c'est le style de sa secrétaire. Comprenez bien quelles sont les idées qu'il y avait. Elle s'appelait Nina, je ne sais plus quoi, c'est une russe qui parlait français. Quelques siècles plus tard, la même expérience était réservée à ceux qui sortirent d'Égypte. Vous voyez quelle est le point. La sortie d'Égypte a été non seulement une libération physique, mais le début d'une nouvelle ère spirituelle. Le texte biblique dit « Je jugerai les Égyptiens et leurs dieux ». Ça veut dire qu'il y aura un bouleversement de ce à quoi les Égyptiens croyaient, de telle sorte que ce soit visible, expérimental, que derrière l'apparence de la nature, il y a un incognito, comme on a dit ce matin, qui de temps en temps...
¿Cómo se hace la foto de la historia? ¿Cuánto tiene esa foto? ¿Qué tal? ¿Cómo se le dio notar?
¿Cuánto?
signe du zodiaque du bélier,
Amon,
le bélier, dieu de terre, c'est à l'époque du règne du bélier, c'est-à-dire vers l'équinoxe du printemps, au mois de Nissan, que le peuple juif a été libéré. Et le Midrash se demande comment il est possible que cette délivrance ait eu lieu justement sous le signe du bélier. Réponse, Dieu a jugé la divinité égyptienne et l'a renversée. Le sacrifice de l'agneau pascal symbolise le bélier privé de son pouvoir divin. Là, je vous ouvrirai très rapidement une parenthèse. Nous allons passer ensemble, comme dernier Shabbat avant Pessah, le Shabbat à Gadol. Vous avez eu avec Daniel une explication des différents Shabbats du calendrier, okay? Shabbat à Purim, etc. Shabbat à Gadol, vous en avez parlé aussi. Bon, un peu. Le Shabbat à Gadol était l'année de la sortie d'Égypte, le 10 Nissan, c'était un Shabbat. Et le 10 Nissan, les Hébreux vont recevoir l'ordre de préparer le sacrifice qu'ils offriront le 14 Nissan. Or, ce sacrifice représentait la divinité qu'adoraient les Égyptiens. Et ce qu'on appelle le grand Shabbat. Il y a eu de la part des Hébreux cette initiative, le courage d'annoncer ce qu'ils allaient faire, sans craindre les représailles des Égyptiens. C'est-à-dire, ce que vous considérez comme le symbole de la divinité, nous allons, nous, le sacrifier au vrai Dieu qui est la volonté suprême qui nous fait aller vers l'avenir. Et le Midrash explique que les Égyptiens ont été pris de panique devant cette chutzpah des Hébreux, de chaque fois les Égyptiens, au marché, vous voyez, qu'on achetait tous les agneaux. Alors ils demandaient qu'ils allaient faire avec. D'autant plus que c'était interdit de manger l'agneau. En Égypte, puis c'était le dieu. Par exemple, en Inde, des vaches sacrées. Vous voyez ? Bon, ça faisait partie de la mentalité. C'était leur piété propre de la mentalité égyptienne, étant donné que l'agneau représente le signe de zodiaque que l'on adore dans le temps où on se trouve, il est intouchable, sacré. Alors imaginez cette chutzpah, ces esclaves hébreux qui vont avoir. Comprenez que ça dit chutzpah ? La chutzpah de se faire un repas avec le dieu de. Le dieu des goïms. Vous voyez d'où viennent ces accusations du Moyen-Âge, qu'après ça, on appelait le sang de Dieu. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, pris de panique, d'abord, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ce courage de proclamer, on renverse les idoles. Exactement ce qu'a fait Abraham. Pris de panique, les Égyptiens, paralysés, n'ont pas réagi. C'est ce qu'on appelle ce Shabbat le Shabbat Agado. Ça veut dire, si les Hébreux n'avaient pas eu le courage de préparer l'agneau du sacrifice, Pessah ne se serait pas passé. Ça voulait dire qu'ils étaient tellement asservis qu'ils ne pouvaient pas décrocher. Vous comprenez ? Imaginez, je ne sais pas, je cherche une comparaison aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui que la communauté juive, je ne sais pas dans quel pays païen, enfin ils sont tous païens, prenne le symbole de la croyance païenne et le piétine, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est clair ? Je cherche une comparaison, mais je trouve pas bien. Vous comprenez l'idée. Bien. Et ça, c'était le Shabbat Agadol. Et ça veut dire, qu'est-ce qui se passe, premièrement, dans cette liturgie, que c'est un agneau qu'on prendra pour le repas de la sortie d'Égypte, c'est le fait de proclamer que ce qui était la divinité d'Égypte est sacrifié. Dès ce temps-là, se prépare l'accusation de déicide. Vous êtes les assassins de notre Dieu. Bon, la chute du dieu de l'Égypte, c'est la chute du système astrologique du règne des forces planétaires. Les forces de la nature, qui avaient été brisées individuellement par Abraham, sont brisées définitivement par le peuple tout entier. Voyez en quoi cette expérience de la sortie d'Égypte, c'est l'expérience d'Abraham, est-ce que nous sommes déjà arrivés dans le cours d'historiosophie de Bereshit à la foi d'Abraham? Pas encore. Non, pas encore. Nous allons le revoir plus en détail. Ce que représente l'option, le parti pris d'Abraham de se dégager de la religiosité ancienne qui était païenne, l'asservissement aux conditionnements, aux déterminations, aux forces de la nature, encore une fois, il faut savoir que en enlevant le style religieux est d'ailleurs extrêmement impressionnant des paganismes antiques, on retrouve finalement le matérialisme moderne, que le phénomène humain est soumis à la détermination. C'est cela que brise Abraham, symboliquement en cassant l'idole de son père, vous vous rappelez ? à la sortie d'Égypte, c'est cette même expérience à l'échelle d'une collectivité, d'une société humaine qui va opter pour la libération. C'est clair ? Et le signe est donc qu'on va sacrifier l'agneau, qui est le fils du bébé. J'ai un peu fait allusion à cela quand on a étudié la faute du mot d'or. Lorsque la partie païenne de toute cette foule qui sortait avec Israël retombera dans le paganisme, ils feront de nouveau l'idolâtrie symbolisée par le taureau, parce qu'on a changé de signe de zodiac. Vous vous rappelez de ça ? Okay ? La parole biblique nous dit que vers la même époque, Dieu révéla pour la première fois son véritable nom. Et le Midrash se demande pourquoi la génération de l'Égypte a-t-elle eu la faveur de recevoir la révélation du nom divin ? Et il donne entre autres une réponse un peu inattendue, c'est parce qu'ils n'ont pas pris de faux noms alors qu'ils étaient en Égypte. C'est moyen. Il y a sans doute, je continue, après j'expliquerai, une relation étroite entre notre nom personnel et le nom divin révélé à Moïse. Sinon, le Midrash explique qu'il y a quatre raisons pour lesquelles les Hébreux ont mérité la sortie d'Égypte. Une de ces raisons, c'est qu'ils n'ont pas changé leur nom. Et vous savez que c'est un signe à travers l'histoire juive. Dès qu'un juif commence à changer son nom, c'est qu'il est déjà prêt à l'assimilation. Vous avez compris ? Mais c'était surtout au niveau des prénoms. Et alors, dans beaucoup de familles juives, on a cherché, finalement, il y a des habitudes assez convergentes un peu dans toutes les communautés, à trouver des noms qui correspondent au nom hébreu, mais c'était une sorte de pseudonyme. On savait très bien que derrière le nom qu'on avait choisi, il y avait le nom hébreu. C'était ça de pouvoir se reconnaître par le nom. Alors ici, il y a une relation, fait M. Bordin, entre le nom qui représente le sujet de la personne de chacun, ce qu'il y a de libre en nous. Le nom désigne la volonté de chacun dans sa spécificité propre. Connaître quelqu'un par son nom, c'est connaître sa façon d'être sujet libre de sa conduite. Un problème qu'on abordera d'autre part, je ne sais pas quand on l'abordera, et avec le fait que jusqu'au temps de la sortie d'Égypte, les hommes ne connaissent que le nom du Créateur à travers les forces de la nature, et que c'est seulement à la génération de la sortie d'Égypte que le vrai nom personnel est dévoilé. C'est clair comme correspondant. Okay. Et la Kabbalah explique là ce même problème de la manière suivante. Vous le verrez à propos du deuxième verset de la paracha de Vaera. Dieu s'adresse à Moïse pour lui dire « Je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob sous le nom de El Shaddai, qui signifie Dieu Tout-Puissant, Dieu qui promet. Et mon nom de Hachem, Doudkevavke, je ne leur ai pas encore révélé. Maintenant, le temps est arrivé. » Et Rashi explique « El Shaddai », ça veut dire le Dieu de la promesse, le nom de Dieu en tant qu'il promet, c'est le Dieu pour les pères. La manière d'être père, c'est le fait de vivre la promesse. On a étudié cela. Non ? Pas encore ? Bon, on étudiera à propos des quatre enfants de la Verda. Et le temps des fils est arrivé. Les fils, c'est l'accomplissement. Et c'est là, au temps de la sortie des enfants d'Israël, Bnei Israël, pendant tout le temps des Avot, les six générations d'Abraham à Moïse, c'est le temps des Avot, le temps des pères, tout est révélé sous forme de promesses. Et Dieu est connu en tant qu'il révèle une promesse dont on a plus ou moins le pressentiment. Ceux qui perçoivent ce pressentiment ont la foi d'Abraham. Une promesse va se réaliser, qu'on va sortir du conditionnement naturel. C'est pourquoi en français, mais c'est mal traduit quand même, on traduit El Shaddai par Dieu Tout-Puissant, celui qui peut tout. Ça veut dire que Dieu peut tout contre les lois de la nature, qui sont l'expression de sa volonté propre comme créateur, mais de telle sorte de libérer l'homme de sa condition. Et le temps de l'accomplissement, c'est le temps des fils. Il me semble que vous avez fait cette analyse. Non, c'est important parce que là aussi nous vivons le même problème. La différence qu'il y a entre la diaspora et Israël, c'est la même différence qu'entre le temps des pères et le temps des fils. La diaspora vit sur la longueur d'onde, si j'ose dire, de l'être père. Elle vit une promesse. Alors qu'Israël vit sur la longueur d'onde de l'être fils, au temps de l'accomplissement de la promesse. C'est pourquoi le dialogue est si difficile. C'est aussi difficile que dans une famille entre un fils et son père. Vous comprenez je vous citerai un Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les juifs de diaspora pensent la chose exactement de manière contraire. Nous sommes sur la terre des ancêtres. Eux, c'est les enfants d'Israël. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est eux les ancêtres. Et les fils d'Israël sont chez eux. Le verset dit Véchavou, Banim, Liboulam. Vous connaissez ce chant qu'on chante dans le mouvement de Genève. Ça veut dire Véchavou, Banim, Liboulam. Et les fils reviendront à leur frontière. Et les pères. Bon, alors rassurez-vous, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de manière d'être. Nous avons ici des fils très âgés et là-bas des pères très jeunes. Enfin, des jeunes pères. L'important, vous avez compris, c'est tout. C'est-à-dire, vous voyez comment s'exprime la Torah. Parle aux enfants d'Israël. Elle s'adresse aux pères pour les fils. Et les pères ont vécu cette histoire dans la modalité de la promesse. D'où leur mérite. C'est un mérite colossal de vivre sa propre existence dans la perspective d'une promesse qui se réalise pour d'autres. Et c'est ça l'identité du père dans la famille. Le père vit par l'éducation pour ses enfants. Et dès qu'on est père, on est passé à cette identité d'une vie de promesse. Mais qui se réalisera pour les enfants. Un père authentique est celui qui s'en rend même pas compte que ce qu'il fait, c'est pour son fils. Mais voilà ce qui se passe là. Est-ce que c'est clair? Alors l'identité fils, c'est l'identité de la réalisation, de l'accomplissement. Au-delà, vous faites éclater cette dialectique père-fils à travers l'histoire des familles, et il y a là deux polarités d'identité considérablement différentes. La Bible se révèle au père pour les fils, parle aux enfants d'Israël. Est-ce que c'est bien compris? Et vous comprenez pourquoi je vous dis que nous vivons de nouveau cette même dialectique, et c'est très clair. Et à chaque fois qu'un juif de la diaspora comprend cela, eh bien, il se produit tout un bouleversement. C'est-à-dire que la diaspora vit l'identité de la promesse. Pour elle, qu'est-ce que c'est l'Israël? C'est la terre promise. Alors que l'Israélien né dans le pays ne comprend plus cette histoire-là. Il n'est plus père, il est fils. Il est embrayé dans la réalité. Alors que l'identité juive de diaspora, elle est mystique, mythique, je ne sais pas comment vous dire ça. Elle est une identité d'espérance. C'est compris? Le grand problème, c'est que c'est le problème, comme on a vu ce matin ou d'autres fois, de l'identification. De la mutation de l'identité. On est passé de l'âge père à l'âge fils. Mais voilà ce que je voulais vous citer, c'est que le dernier verset de la prophétie fait allusion à cela. C'est que le rôle d'Élie le prophète à la fin des temps pour annoncer le temps messianique, c'est qu'il réconciliera le cœur des fils avec le cœur des pères avec le cœur des fils et le cœur des fils avec le cœur des pères. Vous savez ce que c'est. Et remarquez qu'à l'échelle de la civilisation en général, nous sommes arrivés à un temps où c'est le problème fondamental de la civilisation. La relation entre père et fils. Bien, entre fille et mère, mais enfin, entre enfant et parents. Vous avez compris? Okay. C'est clair? Bon, alors je continue encore un peu. Eh oui, on n'est pas fini concernant la révélation du nom, du point de vue, de l'accomplissement. Je vous donnais d'ailleurs la référence, vous avez au livre de Shemot. Hein. J'ai demandé à tout le monde le livre de Shemot. Et qu'est-ce que ça veut dire le livre de Shemot? Les noms. Shemot, les noms. Et ça commence par l'énumération des noms des enfants d'Israël. C'est le livre où le nom se révèle, et pour les hommes et pour Dieu. C'est le livre des noms. Vous voyez, dans la civilisation égyptienne, on n'a pas de nom. On est un numéro d'ordre sur une fiche d'état civil. C'est la civilisation des esclaves. Le chiffre tatoué des camps de concentration. Yes. Et puis, voilà ce qui est délivré, c'est le nom. Vous avez compris la différence entre un nombre et un nom dans ce problème. Okay. Et voilà le verset que je vous cite, puis je vais vous l'expliquer. C'est dans le chapitre 8 de Shemot, et on dira le chapitre 7. Pardon, chapitre 6. Oui. Le chapitre 6, verset 3. Alors prenez rapidement. Vav, Gimel. Chapitre 6, verset 3. Tiens, regarde, Michel, s'il ne fait pas trop froid, tu ouvres un peu ta fenêtre derrière avec le. Non, c'est surtout pour aérer, pour aérer, quoi. C'est pour aérer, tu peux les aider. Voilà. Alors, vous y êtes ? Voilà, je vais vous décrire très rapidement la situation historique où on se trouve. C'est lorsque Moïse reçoit la révélation que les événements de la délivrance vont arriver. Chapitre 8, pas chapitre 9. 6, c'est rapide. Libération vont arriver, il y a une accélération, une intensification de la souffrance, de la persécution. C'est-à-dire à la fin de l'exil, les souffrances se font de plus en plus terribles. Alors, Moïse interroge pourquoi cela arrive comme ça. Pourquoi, alors que tu m'envoies les délivrer, le résultat c'est qu'ils souffrent de plus en plus. Vous vous rappelez, je suppose, le récit. Lorsque Moïse vient, la Torah nous raconte, vient pour délivrer Israël, la Torah nous raconte l'intensification de la persécution. Exactement ce que nous avons vécu à la fin de l'exil présent. À la fin de l'exil, tout s'intensifie. Dans le Midrash, il y a cette comparaison entre la sortie d'Égypte et l'accouchement, dont je vous parle souvent, et c'est très exactement les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire c'est au moment de l'enfantement que les douleurs se font les plus grandes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir, mériter un accouchement sans douleur. Mais quand on ne mérite pas, alors finalement, c'est dans les plus grandes. Alors, mon Moïse pose la question à Dieu. Pourquoi il en est ainsi? Je reviendrai sur la raison pour laquelle Moïse a posé la question. Est-ce que Moïse ne comprend pas par lui-même que c'est au moment précisément où l'accouchement va se faire que les douleurs sont les plus grandes? Je vous donnerai une première réponse. C'est la première fois que ça arrive. C'est par là que nous allons avoir expérience que c'est comme ça que ça se passe. Mais alors, Dieu lui répond, déjà au verset 2, Vaidaber Elohim Moshe Vayomer Elav, Ani Hashem. C'est parce que Ani Hashem. Et qu'est-ce que ça veut dire Ani Hashem? Je suis Hashem. Vaera El Abraham. Regardez-lui. Je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob et El Shaddai. Et Rachid explique, en tant que celui qui promet, Iftartim, je l'aurais promis. Ou Shmi Hashem, non, non, Zartilaï. Mais mon nom de Hashem, par mon nom de Hashem, je ne me suis pas encore fait connaître à eux. C'est ça la différence. Okay? Le temps est venu d'accomplir. Alors c'est la raison pour laquelle c'est si difficile. Tout le temps des Avot, c'est le temps de la promesse. Et le nom de Hachem ne se révèle pas comme tel. Il se révèle par le biais, par la médiation de la promesse, El Shaddai. À la sortie d'Égypte, il se révèle passé le temps de l'accomplissement. Est-ce que c'est clair? Les pères savent que c'est Hachem qui parle à eux, mais il n'accomplira sa parole que pour les fils. Vous comprenez la différence? Je ne sais pas si j'arrive à mettre ça en évidence, mais je reprendrai ce thème. Rappelez-moi quand on est aux quatre enfants de la Haggadah. La manière d'être père et la manière d'être fils, selon le récit de la Torah, éclaire un problème humain considérable. Ce n'est pas du tout la même manière d'exister, la même manière de vivre. L'un vit dans une dimension par délégation de l'avenir. C'est le Père, alors que l'autre vit au présent. C'est le Fils. C'est l'accomplissement. Bon, alors la Kabbalah explique ça de la manière suivante. Il y a 26 générations, depuis le premier homme jusqu'à la sortie des autres. Il y en a 10 de Adam à Noah, 10 de Noah à Abraham, et 6 d'Abraham à Moïse. Alors la valeur numérique du nom de Hachem, c'est 26. C'est donc à la 26e génération que le nom de Hachem se déroule. Bien. Alors, je continue encore un peu. Le problème de la révélation du nom, Shem. Et le nom de Dieu se révèle, par cette révélation est possible à travers, donc, grâce à nous. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vous-même remarqué, il y a aussi une correspondance. Hachem, le nom, Moshe, c'est les mêmes lettres à l'envers. C'est-à-dire le nom se dévoile à travers moi. Bien. Alors je continue encore quelques paragraphes. Bon, la dernière phrase que j'avais lue, il y a sans doute une relation étroite entre notre nom personnel et le nom divin révélé à Moïse. Le fait que nous sommes quelqu'un et pas quelque chose. Les dieux des païens, ce sont des forces impersonnelles, des quelque chose. Alors le Dieu qui se révèle à Israël, c'est quelqu'un. Et il délivre le quelqu'un en nous. Il s'adresse au quelqu'un en nous. Est-ce que c'est clair? Après, il faut faire surgir la libération de ce qui est en moi et mon sujet. C'est ça, sortir de la maison de l'esprit. Le peuple d'Israël se comporte depuis lors comme une personnalité qui entre en relation avec la personne divine. C'est la notion de personne qui apparaît là. La tradition décrit la rencontre du peuple avec Dieu au moment de la sortie d'Égypte comme l'époque des fiançailles. Quelque temps après, la révélation du Sinaï, c'est l'époque du mariage, dans lequel la personnalité du peuple s'affirme de plus en plus. Il y a correspondance avec les trois fêtes de pèlerinage. Et Pessah correspond à l'expérience d'Abraham et c'est les fiançailles. Shavuot correspond à l'expérience de Jacob et fait bien attention à l'ordre de Jacob et c'est le mariage. D'ailleurs, à Shavuot, lorsqu'on sort la Torah pour lire les 10 commandements, on lit, avant de lire, au moment où on sort la Torah, on lit la Ketuva par laquelle la Torah est mariée à Israël. C'est une fête de mariage. Et Sukkot, c'est les 7 jours de la, les 7 jours du, des Shavuot. Non, laisse tomber, on n'a pas qui déroule. Sukkot, c'est la Chuppah elle-même pendant 7 jours. Bon, vous apprendrez d'autre part pourquoi l'ordre change, ce n'est pas Abraham, Isaac, Jacob, mais Abraham, Jacob, Isaac. Qui peut répondre à l'époque? Oui, c'est un problème parallèle. Mais je vais vous dire très rapidement. Et l'objectif, c'est le commencement, c'est Abraham, l'achèvement, c'est Jacob. Si ça réussit tout de suite, alors c'est Pessah, Shavuot. Catastrophe, il faut recommencer parce qu'il y a eu la faute du Vaudor. Alors apparaît Sukkot décalé de Pessah et qui est que le mois de Tishri reproduit le calendrier du mois de Nissan et qui est l'histoire d'Isaac qui est intermédiaire entre Abraham et Jacob. Vous avez compris l'idée? Normalement, la fête de Pessah devrait se faire en même temps que Sukkot à Nissan. On devrait faire Pessah sous la Sukkah et arriver à Shavuot. Mais il y a un décalage de recommencement. Alors c'est décalé. Je ne sais pas si on a étudié déjà ça dans le calendrier, mais on l'étudiera rapidement vendredi prochain. Ce vendredi, je vais commencer à vous étudier le calendrier de Pessah. Bon. Et chaque fois d'ailleurs que la Gemara traite les trois midot, les trois patriarches, corollairement, parallèlement au calendrier, c'est toujours cet ordre-là. Abraham, Jacob et Isaac. Vraie cette correspondance. Il y a les 7 jours de Pessah, 49 jours après, Shavuot, Matan Torah. À Tishri, il y a les 7 jours de Sukkot, le 8e, Simchat Torah. Enfin, on est dans l'écriture à ça de nouveau, je ne sais pas si cette année ou non.
Non, on n'a pas étudié.
Et là, le rare titre des versets, premier verset qui concerne Pessah, un verset de Osée, chapitre 2, verset 21, « Je te fiancerai à moi pour toujours. » Et « Rastikha le'olam »« Rastikha li le'olam » Quand est-ce qu'on dit ce verset? Très bien, dans le rite Ashkenaz. Et deuxième, les Sfaradim le disent aussi.